Au micro, Idrissa Seloudia, bonjour. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. En Guinée, la junte a décidé que le président déchu, Alpha Condé, doit rester dans le pays. Notre correspondant Zakaria Camara fera le point. Par ailleurs, Thibaut Camara, un ancien ministre et proche de M. Condé, a été arrêté hier sur ordre de la junte avant d'être relâché le même jour, a-t-on appris dans son entourage et de sources officielles. Le CNRD, dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya, qui a pris le pouvoir le 5 septembre, a, dans un communiqué lu sur la télévision publique, accusé M. Camara d'avoir contrevenu à des engagements de neutralité envers le nouveau pouvoir. Au Mali, pendant ce temps, le gouvernement, accusé de vouloir recruter des mercenaires, invoque sa souveraineté. Abdourahmane Dia nous donnera les détails. La ministre française des armées, Florence Parly, est arrivée hier au Niger afin d'évoquer avec les autorités la transformation en cours du dispositif militaire français au Sahel, dans lequel la base aérienne de Niamey pourrait à l'avenir jouer un rôle accru. Paul Rusesabagina, dont l'histoire a inspiré le film « Hôtel Rwanda », et qui est devenu un féroce critique du président Paul Kagame, doit être fixé ce lundi sur son sort, après des mois d'un procès controversé qu'il a vu notamment jugé pour terrorisme. La prison à vie a été requise contre cet ancien directeur de l'hôtel des Mille Collines à Kigali. Au Burundi, les inondations et autres catastrophes naturelles ont forcé au moins 100 000 personnes à fuir leurs maisons ces dernières années, selon l'ONG Save the Children dans un rapport publié lundi. Ce pays connaît depuis 2015 une profonde crise politique qui a fait 1 200 morts et poussé à l'exil quelques 400 000 Burundais. Mais aujourd'hui, plus de 84% de tous les déplacés internes au Burundi l'ont été en raison de catastrophes naturelles, principalement à cause de la montée des eaux du lac Tanganyika, le deuxième plus grand d'Afrique, affirme l'ONG anglaise. Djibouti a annoncé hier que son président Ismaël Omar Guelleh, âgé de 73 ans et au pouvoir depuis 1999, était rentré au pays après des rumeurs la semaine dernière sur les réseaux sociaux selon lesquels il était hospitalisé à Paris. Démenti mardi du Premier ministre et du porte-parole du gouvernement, affirmant qu'il prenait du repos après un surmenage. En Algérie, l'ex-président Abdelaziz Bouteflika, décédé vendredi, a été inhumé hier à Alger, plus discrètement que ses prédécesseurs. Nous y reviendrons dans quelques instants. En Allemagne, le social-démocrate Olaf Scholz a consolidé hier son statut de favori à la succession de la chancelière Angela Merkel en s'imposant lors du dernier grand débat télévisé des trois principaux candidats à une semaine d'élections législatives mal engagées pour les conservateurs de Madame Merkel. Le parti du Kremlin Russie Unie a affirmé ce lundi avoir remporté plus des deux tiers des sièges de députés à l'issue des législatives en Russie, conservant ainsi la supermajorité nécessaire pour modifier la Constitution sans l'appui d'autres formations, et ce, en dépit des multiples accusations de fraude de l'opposition anti-Kremlin qui, dans la foulée deux mois de répression, a été exclu du scrutin. Au Canada, législative, ce lundi, le premier ministre sortant, le libéral Justin Trudeau, et son principal rival, le conservateur modéré Erin O'Toole, sont donnés à égalité dans les sondages. Les familles haïtiennes expulsées en nombre hier, aussi entre la colère du traitement aux États-Unis et l'angoisse de vivre à nouveau dans leur pays, désormais en proie à la violence des gangs. La série dramatique The Crown, produite par Netflix, a été multi-récompensée hier soir à Los Angeles lors de la cérémonie des Emmy Awards, tandis qu'une autre plateforme de streaming, Apple TV+, s'est aussi distinguée avec la série humoristique Ted Lasso. la suite de nos informations, le gouvernement malien ne permettra à aucun État de faire des choix à sa place et encore moins de décider quel partenaire il peut solliciter ou pas. C'est la réaction de Bamako aux accusations selon lesquelles le Mali cherche à recruter des mercenaires russes de la société privée Wagner. Le point avec Abdourahman Dia.
Dans un communiqué publié hier par le ministère malien des Affaires étrangères, le gouvernement de transition invoque l'exercice de sa souveraineté et le souci de préserver son intégrité territoriale. Le texte ne cite pas de pays ou la société Wagner. Le gouvernement malien dénonce dans son communiqué des rumeurs et des articles de presse commandités s'inscrivant dans le cadre d'une campagne de dénigrement du Mali et de ses dirigeants. La France et l'Allemagne ont prévenu qu'un déploiement des paramilitaires du groupe russe remettrait en cause leur engagement militaire au Mali. De son côté, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a condamné jeudi la volonté des autorités de la transition malienne d'engager des compagnies de sécurité privées sans citer de nom, s'alarmant des conséquences certaines sur la détérioration de la situation sécuritaire dans le pays et dans la région.
En Guinée, on en sait enfin un peu plus sur le sort du président déchu Alpha Condé. Il doit rester en Guinée, a décidé le nouvel homme fort du pays qui s'est autoproclamé président de la République, chef de l'État. Le point avec notre correspondant en Guinée, Zakaria Camara.
24 heures après le départ d'une mission ouest-africaine conduite à Conakry par les présidents ivoiriens et ghanéens, la junte au pouvoir en Guinée a donné des précisions sur le sort qu'elle compte réserver à Alpha Condé. L'ancien président demeurera en Guinée. Toutes les mesures sont prises pour le respect de son intégrité physique et morale, annoncé aux journalistes à Conakry, le colonel Amara Camara. Le porte-parole du Conseil national pour le rassemblement et le développement a ajouté que la délégation de la CEDEAO et les nouvelles autorités guinéennes ont eu des échanges très francs et sincères. Les militaires continuent l'opération de charme. Le colonel Mamadi Doumbouya a ordonné la poursuite du fonctionnement régulier de la Cour des comptes et de la Cour suprême. Toutes les frontières fermées par Alpha Condé sont en cours de réouverture depuis quelques jours. Les consultations nationales en vue de définir les contours de la transition se poursuivent à Conakry. Zakaria Camara pour VOA Afrique.
Le premier ministre australien a répliqué dimanche aux accusations de duplicité formulées par Paris sur son intention de rompre un contrat d'achat de sous-marins. De son côté, le président américain Joe Biden devrait s'entretenir prochainement avec son homologue français Emmanuel Macron. Les explications d'Éric Manirakidza.
Selon le porte-parole du gouvernement français Gabriel Attal, le président Biden a demandé à parler à Emmanuel Macron et il y aura un échange téléphonique dans les tout prochains jours. On veut des explications sur ce qui s'apparente à une rupture de confiance majeure et aussi savoir comment ils entendent sortir de ce contrat avec des compensations à la clé, a-t-il précisé sur la chaîne de télévision BFM TV. La décision de l'Australie d'annuler le contrat d'achat de sous-marins français en faveur de navires américains à propulsion nucléaire a suscité l'indignation de Paris. Emmanuel Macron a rappelé les ambassadeurs de France à Canberra et à Washington dans un geste sans précédent. Pour sa part, le Premier ministre australien Scott Morrison a rejeté hier dimanche les accusations françaises de duplicité. Nous avions de profondes et graves réserves quant au fait que les capacités du sous-marin de classe attaque ne répondaient pas à nos intérêts stratégiques et nous avions clairement indiqué que nous prendrions une décision basée sur notre intérêt stratégique national, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Sydney.
La Minute Éco, Nathalie Barge.
La Commission économique pour l'Afrique de l'ONU et la Chambre de commerce internationale ont lancé des centres d'entrepreneuriat en Afrique. Ces centres travailleront avec des entreprises, des universités et des agences gouvernementales. Ils auront pour objectif de connecter les entrepreneurs locaux aux marchés mondiaux, soutenir les petites et moyennes entreprises et encadrer les start-up. United Airlines va lancer 3 vols hebdomadaires entre Washington et Lagos le 29 novembre, marquant son retour au Nigeria après son départ en 2016. Seul le transporteur américain Delta Airlines relie les deux pays entre Lagos, New York et Atlanta. En mai dernier, United Airlines a repris ses vols vers Accra au Ghana après 9 ans d'absence. L'Africa Finance Corporation, spécialisée dans la fourniture d'infrastructures, prévoit de lever 2 milliards de dollars sur 3 ans pour financer des projets climatiques en Afrique. Le Fonds pour la résilience climatique des infrastructures permettra de soutenir des projets visant à réduire les émissions de carbone et de construire des infrastructures durables, a précisé le président de cette institution panafricaine, Samaïla Zoubeiro.
Merci Nathalie. Et maintenant les sports avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Ibiza et bonjour à tous.
Football de salle pour commencer, Mondial 2021 en Lituanie. L'Afrique aura un représentant au second tour.
Oui, il s'agit du Maroc. Les Lions de l'Atlas, version futsal, ont réussi à se qualifier grâce à leur nul de 3 partout contre le Portugal. Ils terminent deuxième du groupe B avec 5 points en huitième de finale. Les coéquipiers de Youssef Djiwad affronteront le Venezuela mercredi prochain.
Sur le gazon, on jouait le tour préliminaire, retour des interclubs de la CAF.
En Ligue des Champions, les Congolais de Maniema Union seront au second tour après leur succès 2-0 face aux Gabonais de Boingidi Sport. Ils affronteront les Sud-Africains d'Amazulu. Qualification également des Ivoiriens de la SEC Mimosa, deux fois vainqueurs 1-0 des Sénégalais de Tenguet et des deux clubs congolais, l'AS Oto Odo et Kara de Brazzaville. Déception par contre pour les Guinéens de Kamsa, éliminés sur un seul match et à l'extérieur par les Ghanéens d'Assofoc. Ça s'arrête également pour les Camerounais de Fovu de Baram, sortis par les Angolais de Petro Atlético, tout comme les Béninois de Zaeu battus 2-0 par les Mauritaniens du FC Ouagadougou.
Élisée, il n'y aura aucun club béninois au second tour, puisqu'en Coupe de la Confédération, les Buffles du Borgou ont été eux aussi éliminés.
Exactement Idrissa, éliminé par les Mauritaniens du FC Ouagadougou, vainqueur 2-0 après le nul 1-1 du match aller. L'aventure s'arrête aussi pour les Ivoiriens de San Pedro, battus par les Burkinabés de l'Aspa Yenega, tout comme les Gabonais de Manga Sport, éliminés par les Botswanais d'Orapa United. Grosse performance en revanche pour les Maliens de Binga FC. Les pensionnaires de 2e division ont battu 2 fois les Libériens de Breweri. Aza Kongot aussi réussit l'exploit de renverser 4-0 Asco de Kara, qu'il avait battu 3-0 à l'aller.
Suite des matchs de l'afro-basket féminin à Yaoundé au Cameroun.
Avec la 2e journée qui a démarré hier et les difficultés continuent pour la Guinée, la Tunisie et le Mozambique qui ont concédé leur seconde défaite. Les Guinéennes 58-104 face à l'Égypte, les Tunisiennes 49-69 devant la Côte d'Ivoire et les Mozambicaines 61-70 face à l'Angola. A noter qu'en ouverture, les favoris se sont bien comportés. Le Cameroun a dominé largement le Kenya 74-60. Carton pour le Mali face à la Tunisie 101-39 et pour le Sénégal aux dépens de la Guinée 100-31. Enfin, les Nigérianes, tenantes du titre, ont battu le Mozambique 67-50.
Autre compétition continentale chez les dames, la CAN de volleyball, qui a finalement repris à Kigali avec le sacre du Cameroun.
Oui, les Lions ont eu raison des Kenyans en finale, score 3-7-1, 25-21, 25-23, 15-25 et 25-23. Le Maroc finit 3e après avoir battu 3-7-0 le Nigeria en match de classement. Pour rappel, la compétition avait été suspendue entre-temps par la Confédération africaine de volleyball, puisque le Rwanda, pays hôte, a été reconnu coupable d'avoir aligné 4 joueuse brésilienne naturalisée mais non éligible.
Merci Élisée. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en votre compagnie Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, plus de 4 ans après la condamnation de l'ancien président Hissène Habré à indemniser les victimes à hauteur de plus de 80 milliards de francs CFA, jusqu'à ce jour, ces victimes n'ont reçu aucun centime. Hissène Habré est mort à Dakar, où il purgeait une peine de prison à perpétuité. Et pour accélérer le processus, l'Union africaine a dépêché à N'Djamena une délégation conduite par Tordeta Radibaye, président du conseil d'administration du fonds d'indemnisation des victimes. André Kotmadjingar fait le point.
En application d'un protocole de siège signé en 2017 par le chef d'État membre de l'Union africaine, le Tchad doit abriter le secrétariat du fonds fiduciaire pour l'indemnisation des victimes du Sénabri. Le but de la mission conduite par l'émissaire de l'Union africaine Alex Tordeva et Radivaï est de relancer l'opérationnalisation de ce fonds en faveur des victimes. Les clés d'un bâtiment pouvant servir le siège de ce fonds lui a été remis par Mahamat Ahmed Alabo, ministre tchadien de la Justice.
Malgré les frustrations des victimes que nous avions longtemps évoqué, venons de poser aujourd'hui les bases de ce qui servira d'élément concret dans le processus d'indemnisation des victimes. Nous concluons notre séjour sur une note très positive.
Pour le ministre Mahamat Ahmed Alabo, c'est maintenant que le travail le plus difficile va commencer.
Quand on a mis en place un fonds fiduciaire, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un armoire où on a mis de l'argent et venez vous servir. Il faut aller chercher l'argent. Et si je me mets à la place des victimes, je ne voudrais pas décourager les uns ou les autres, mais on va se battre pour que, si ce n'est pas eux, les ayants droit soient indemnisés, et le plus tôt possible.
Le chef de mission, Alex Tordevaï Radivaï, a déclaré que le conseil d'administration de ce fonds et le conseil des victimes vont faire la relecture de la décision de Dakar afin de prendre toutes les victimes en compte.
La décision de Dakar a plus ou moins oublié certaines victimes qui étaient parties au procès, régulièrement constituées. Leur nom ne figure pas sur la liste. D'autres qui n'avaient peut-être pas cru à ce processus n'ont pas été partis au procès. La décision permet et mandate le conseil d'administration de considérer cet élément-là. Et également, toutes les autres qui se constitueraient après le rendu de ce verdict-là.
Ce fonds d'indemnisation des victimes prendra-t-il en compte les ex-agents de la DDS, direction de la documentation et de sécurité, condamnés en 2015 par la Cour criminelle spéciale de N'Djamena? Le ministre de la Justice, Mahamat Ahmed Alabo, répond.
Naturellement, cette avancée va booster, sans nul doute, la démarche nationale. Donc, le gouvernement étudiera les voies et moyens au lieu de faire peut-être deux démarches séparées, voir dans quelle mesure on pourrait établir une passerelle entre les deux pour faciliter également les choses.
Il n'est pas question de cumuler les deux dossiers, estime au micro de VOA Afrique Clément Dokota Baifuta, président de l'association des victimes des crimes et répressions du Sénabri.
Le dossier de N'Djamena ne peut pas se fusionner à celui de Dakar. C'est deux dossiers bien distincts, ce qui fait qu'il y a l'indemnisation de Dakar et l'indemnisation du procès de N'Djamena. La démarche du gouvernement pour fusionner les deux dossiers va nous trouver sur la route. Parce que là, c'est dire au ciel et la terre, n'est-ce pas, de se fusionner, ce qui ne se fera jamais.
Avec cette avancée, l'espoir renaît chez beaucoup de victimes désespérées qui meurent à petit feu et qui ne pensent même pas toucher un centime de leur indemnisation. André Kodomadingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien, 24h/24, sur VOA Afrique, N'Djamena, au Tchad, sur 93.1 FM.
L'ex-président algérien Abdelaziz Bouteflika a été inhumé dimanche au carré des martyrs du cimetière d'El Alia à Alger, réservé aux héros de la guerre d'indépendance. M. Bouteflika est décédé vendredi à l'âge de 84 ans, plus de 2 ans après avoir quitté le pouvoir sous la pression de la rue et de l'armée. Au micro de Jean-Roger Bion, grandeur et décadence d'un homme politique de haut vol avec Riyad Sidaoui, analyste et expert de l'Algérie, joint à Genève.
Non, Bouteflika a beaucoup d'amené pour l'Algérie, mais il n'a pas compris que le président à vie est un peu plus chansonnant. Il a sauvé l'Algérie sur deux plans. Sur le plan interne, avec la réconciliation nationale. Il a mis fin à la grande discorde, il a mis fin à la guerre civile, il a mis fin à la destinée noire. Ça, c'est à l'intérieur. À l'extérieur, l'Algérie a été affaiblie sur la scène internationale et régionale. Mais grâce à Bouteflika, puisqu'il était Il a fait sa carrière en tant que ministre des Affaires étrangères avec Bouteflika. Grâce à Bouteflika, l'Algérie a rayonné de nouveau sur le plan régional comme sur le plan international. Ce sont les deux aspects très positifs du président Bouteflika. Le côté négatif, c'est qu'il a modifié la constitution pour avoir un troisième mandat, quatrième mandat, il veut encore cinquième mandat.
Alors, il y a un nouveau régime en Algérie. Que faut-il pour relancer la concorde nationale, la vraie concorde, dont M. Bouteflika était l'initiateur au début des années 2000?
La paix civile est installée en Algérie depuis 2005, la réconciliation nationale. Donc, la page douloureuse de la destinée noire a été bien tournée. Même le terrorisme en Algérie, et vraiment, c'est très, très rare d'avoir un attentat et surtout, c'est toujours l'armée qui prend l'initiative et qui arrive toujours à neutraliser des cellules terroristes dans les maquis.
Pourquoi le printemps arabe, qui a pris pied par exemple chez les voisins en Tunisie, pourquoi a-t-il du mal à s'incrustrer? Faut-il croire que le système Bouteflika semble difficile à déboulonner?
Il a eu un printemps arabe en Algérie en 2019, mais j'appelle moi dans mon livre la deuxième vague. La deuxième vague du printemps arabe, c'était en 2019 qui a touché le Soudan avec l'éjection de Omar al-Bashir, l'islamiste Omar al-Bashir, actuellement en prison, et en Algérie avec Bouteflika. Donc le Hirak en Algérie, ça s'inscrit dans ce printemps arabe, c'est que les manifestants se manifestent et ne veulent plus surtout des présidents rois, des présidents à vie. Et pour cela, le slogan principal du Hirak, ça veut dire les manifestations algériennes en 2019, c'était « Il n'y aura pas de cinquième mandat Bouteflika ». Il n'y aura pas de cinquième mandat Bouteflika. Mais en même temps, les manifestants connaissent bien que Bouteflika, en fait, il ne gouverne pas depuis 2013, parce qu'il est gravement malade, il passe son temps souvent à l'hôpital Val-de-Grâce en France, que Al-Mouradia, le château Al-Mouradia, le palais présidentiel. Donc, mais il a beaucoup perdu, en fait, de son capital symbolique avec la modification de la Constitution et le renouvellement des mandats. Parce que la question est claire, des mandats comme aux États-Unis d'Amérique, dès qu'elle a commencé à modifier la Constitution et avoir un troisième mandat, là c'était la dérive.
Riyad Sidaoui, directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Cameroun, les organisations de la société civile de protection de l'environnement et les communautés autochtones de la zone forestière de l'est du pays plaident pour la fin de la surexploitation de l'essence végétale rare appelée le moabi. Le moabi a de très fortes valeurs pour les communautés. Sa disparition progressive fait du Cameroun un mauvais élève dans la conservation de cette essence, ce qui affecte déjà la vie des communautés forestières. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jules-Ntap.
Et ce fruit-là, nous le suçons auparavant.
Dans les villages Ntumvo et Kabilon, à l'est du Cameroun, l'évocation du moabi par les communautés autochtones de forêt se fait déjà au passé. Cédric Morel est un jeune du village Ntumvo.
L'exploitation forestière est passée, pour trouver un moabi, ce n'est plus facile. Donc le moabi est en train de disparaître.
De 2009 à 2018, 119 000 mètres cubes de moabi ont été exportés vers la France et la Belgique. Pour la plupart des cas, cette essence est exploitée illégalement. Achille Wanke a récemment réalisé un documentaire sur la surexploitation du moabi dans la région de l'Est.
On peut régénérer le moabi, mais le problème c'est reconstituer le stock dont on a besoin pour à la fois générer des graines pour les populations et à la fois produire des volumes de bois importants pour l'exploitation forestière. Ce qu'il y a aujourd'hui ne permet plus de satisfaire ces demandes-là.
Le moabi est une essence très prisée sur le marché international pour la qualité de son bois. Mais dans les zones forestières, il est plutôt d'une très grave utilité, comme explique Dr Samuel Ngifo, secrétaire général du Centre pour l'environnement et le développement.
Tout est utilisé dans le moabi. Dans le moabi, on utilise les feuilles comme médicament. On utilise l'écorce comme médicament. On utilise les graines pour en faire de l'huile, huile alimentaire, et pour en faire de l'huile cosmétique. Cette huile-là a une valeur hydratante beaucoup plus élevée que toutes les huiles connues. Mais l'exploitation forestière va faire disparaître ce beurre de moabi.
Face à la menace de disparition du moabi, des pépinières voient le jour. Pour préserver cette ressource, à l'initiative de Tropical Forest and Rural Development, une ONG locale. Dans les villages Ndomzok et Kabilon, à l'est du Cameroun, des plants ont été distribués aux villageois. Marie est une habitante du village Kabilon. Elle a reçu une douzaine de plants de moabi qu'elle fait pousser dans son champ de cacao.
C'est chacun qui conserve ça maintenant dans son champ ou bien là où il travaille.
Mais d'autres acteurs proposent que cette ressource soit inscrite à l'initiative CITES, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de fleurs sauvages menacées d'extinction. Il s'agit d'un accord intergouvernemental qui a vu le jour en 1973 à Washington. Docteur Samuel Guifo, secrétaire général du CED.
La raison, c'est que c'est une essence qui est extrêmement utile pour les communautés pygmées. Elles ne vont pas bloquer les routes pour se faire entendre, mais la souffrance qu'elles ont du fait de la destruction de cette essence-là, de sa disparition, est très forte. Et nous pensons qu'il faudrait faire attention.
Le gouvernement entre fois d'organiser en chefferie unifiée le peuple autochtone Baka, qui a un usage multiforme du moabi. Cette reconnaissance sur le plan administratif va les permettre de bénéficier des projets de développement et de conservation de leurs ressources naturelles. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Parlez de VOA Afrique à vos amis, actualités, musique, sport et plus encore. 102 FM Bamako, 106.1 Gao et 90.3 FM Tombouctou.
Pour terminer, allons à la rencontre de Madine Niaye, la première femme à jouer de la kora au Mali. La kora, l'un des instruments les plus emblématiques du patrimoine musical malien. Reportage de Mariam Kouate.
Cette voix accompagnée du son de la kora est celle de Madine Ndiaye. Grâce à la kora, cette malienne de la quarantaine a su impressionner de nombreux publics au Mali et ailleurs. C'est dans les années 95 qu'elle s'est initiée à la kora.
Moi, je suis venue à la kora rien que par amour. Mais j'ai vu la kora en rêve. J'étais sur la scène du CCS, habillée en robe gonflante noire. J'avais les rastas pieds nus. J'étais très claire sur la scène. Donc, j'ai commencé la kora chez Toumani Diabaté. C'est lui qui m'a donné ma première kora. C'est comme ça que je suis venue à la kora.
La kora est composée de 21 cordes en fil de pêche, d'une calebasse en peau de vache. Elle est traditionnellement réservée aux hommes et à la casque des griots. Au Mali, être joueuse de kora est mal perçue par les traditionnalistes. Madine, quant à elle, a dû s'armer de patience et de courage pour parvenir à se réaliser, tant sur un plan artistique que personnel.
J'ai eu toutes sortes de problèmes. J'ai dit Madine a perdu la vie parce qu'elle a pris la kora. On l'a dit de ne pas jouer la kora. La fille, là, elle est têtue. La femme ne doit pas jouer à la kora. C'est réservé aux hommes. On m'a même critiqué dans un événement.
C'est en 2002 que Madine perd la vue suite à une maladie. Mais son handicap ne l'a pas empêché de réaliser son rêve. Malgré son handicap, Madine arrive à jongler toutes les 21 cordes de la kora.
C'est Dieu seul qui m'aide. Je peux interpréter une chanson, mais ça vient avec la mélodie.
Madine est en ce moment sur un deuxième album, mais le manque d'accompagnement financier reste un obstacle.
C'est le financement seulement qui me manque. J'ai demandé au Mali, le coût était élevé à 8 millions et 1 million qu'on a donné.
Première femme à jouer de la kora au Mali, Madine Ndiaye est une artiste qui a fait ses preuves sur le plan national comme international. Elle est aujourd'hui un modèle pour de nombreuses femmes instrumentalistes au Mali. une nouvelle étoile montante suit présentement ses pas. Elle, c'est Wassa Kouyati. Mariam Kouyati Bamako pour la VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sebunia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. Thank you.